Sur RCC, on poursuit avec un autre invité, Olivier Bianconi. Salut Olivier.
Bonjour Anto.
Bonjour, bienvenue. Donc, Olivier Bianconi, c'est Bianconi Scoubert, ta excursion, visite de la Corse, et puis également Cittadella d'Afa, à l'entrée de la ville. Avant de parler du côté économique, hein, de cette pandémie, de cette crise que nous traversons, Olivier, j'aimerais que tu nous parles très simplement de ton confinement personnel. D'abord, est-ce qu'il s'est bien déroulé? Qu'est-ce que tu as fait durant ces 2 mois?
Alors, écoute, ben, comme beaucoup, hein, au début, il a fallu s'organiser, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude, bon, même si c'est vrai qu'on sortait de l'hiver, de passer autant de temps enfermé chez soi. Mais bon, pour moi, finalement, c'était plutôt, je dirais, un moment de travail, parce que ça m'a permis de revenir, justement, de reprendre certains dossiers que j'avais mis de côté à défaut de temps, justement. Donc finalement, c'était un confinement plutôt studieux, beaucoup de recherches historiques, généalogiques, beaucoup de travaux qui concernent aussi mes activités avec la télévision, ou un documentaire notamment à venir sur les sociétés secrètes en Corse. Je donnais depuis un an donc une conférence sur le sujet un peu partout en Corse, et là avec un réalisateur, donc on travaille sur le documentaire, donc qui devrait être présenté au public, je pense peut-être cette année. Ça me paraît compromis du fait justement du retard un peu de logistique, en tout cas, mais le tournage va se faire normalement dans le courant de ce qui reste de l'année, et puis un petit peu peut-être l'année prochaine. Donc bon, en tout cas, ça devrait être présenté prochainement. Bon, il y avait différents petits chantiers comme ça, je dirais, à mener, et donc j'ai profité de ce temps pour cela, hein, puisque de toute manière on était comme tout un chacun coupé un peu du restant de nos familles. Et bon, j'ai la chance d'avoir un appartement confortable à Calvi avec une terrasse. Il faisait bon, hein, pendant ce confinement finalement, donc on pouvait travailler dehors. Alors je dirais que bon, c'était un mal nécessaire, quoi. Voilà.
Mais souvent, nos invités l'ont appelé confinement de luxe.
Oui, c'est il faut justement raison garder, hein, ce sujet-là. On entendait parfois des gens se plaindre. Bon, nous, en Corse, on a l'avantage quand même déjà d'avoir un temps relativement clément. Donc ça permet, quand on a la chance d'avoir un espace extérieur, de pouvoir en profiter régulièrement. Et puis bon, voilà, ma pensée, elle était pendant le confinement, justement, pour ceux qui n'en étaient pas là. On pensait bien sûr à ceux qui sont sans abri, ou du moins en tout cas dans des conditions de logement qui sont difficiles, les familles nombreuses qui sont entassées des fois dans les villes, sur des espaces restreints, avec les enfants qu'il fallait justement scolariser à la maison, le travail, le télétravail pour certains, pour beaucoup même. Donc voilà, moi j'ai pensé beaucoup à tout cela. Alors c'était à la fois une période, je disais, de travail, mais c'est une période aussi qui était un peu déstabilisante, évidemment, parce que d'abord, très anxiogène par les informations qu'on avait à la télévision en boucle, en permanence, et surtout la contradiction qui se faisait, hein, entre les querelles de scientifiques, les querelles de politiques, les annonces, puis l'inverse qui était donné la semaine suivante. Enfin bref, on a tous connu ça, à tel point qu'au bout d'un moment, j'ai fini par éteindre la télévision, parce que même en essayant justement de prendre du recul par rapport à ça, on finit par être tendu, je dirais, de ce manque d'informations justement fiables, et de l'incertitude justement de ce qui va nous avenir, d'autant plus que quand on travaille comme moi dans le domaine privé, ça veut dire qu'on est impacté financièrement assez lourdement, et quand on parle de pourcentage sur mes activités saisonnières, c'est 100%, hein, de l'activité que l'on perd. Hein. Donc forcément, c'est anxiogène, parce qu'on se demande un petit peu comment vont se passer les relations justement avec les banques, avec la reprise aussi. Est-ce qu'on sera en capacité justement de repartir après une période comme celle-ci, et dans quelles conditions? Donc bon, ça restait évidemment une période tendue, mais voilà, il fallait, je pense, aussi penser à ceux qui étaient dans des conditions beaucoup plus difficiles. J'ai pensé aussi beaucoup à ceux justement qui travaillent dans l'ombre, qui sont un peu des fantômes. Il y a quelques années, il y avait un livre intéressant sur ces travailleurs, tu sais, ces travailleurs qui viennent souvent de l'étranger, qui sont dans le domaine agricole, parfois dans le bâtiment ou dans les services, que ce soit en Corse ou ailleurs d'ailleurs, hein, et qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas vraiment d'identité, qui sont des ombres. Et je pensais aussi à eux, parce que ce sont des gens qui sont déjà dans des situations qui sont difficiles, qui sont souvent venus chercher justement une vie meilleure en Europe occidentale, et qui, dans ces circonstances-là, doivent se retrouver dans un dénouement absolu. Donc voilà, du coup, il était difficile, au vu de tout cela quand même, de pouvoir se concentrer au niveau de ce qu'il aurait été nécessaire pour pouvoir conduire justement ces travaux intellectuels, je dirais, et confortables, justement, à l'abri, justement, de l'épidémie. Bien sûr, en premier lieu, les pensées de chacun allaient au personnel soignant, hein, bien sûr, qui était sur le front. Donc, on a tous, dans notre entourage, une infirmière, un médecin, qui étaient confrontés vraiment à la pénibilité du travail et à la dangerosité, je dirais, de ce virus, au vu surtout du nombre de personnes âgées qu'on a en Corse.
C'est vrai. Voilà.
Et on sait surtout le rapport que peuvent avoir justement et l'importance que ont ces personnes âgées dans notre société, le rapport qu'ils ont avec les enfants. Il était important aussi évidemment d'avoir une pensée pour tout cela.
Alors depuis le 11 mai, on est sorti de ce confinement. Évidemment, tu travaillais en amont hein, sur la saison à venir. Alors d'abord, je rappelle, hein, donc toi tu as deux affaires. Tu as donc Chile Alafa qui est ouvert essentiellement l'hiver, et ensuite Bianconi Scuberta, c'est des excursions, des visites guidées. D'abord, est-ce que pour la première, Chile Alafa, est-ce que tu as été impacté ou pas?
Alors, on a eu de la chance avec Città della Dava, puisque c'est un établissement qui a la particularité, en effet, de n'être ouvert que l'hiver. Donc, je l'ai créé en 2014, justement, avec l'objectif, je dirais, d'essayer d'animer, de participer, en tout cas, à l'animation de Calvi pendant l'hiver, puisque, bah, justement, le tourisme, la saisonnalité, l'hyper-saisonnalité, même, on aurait tendance à dire, ne favorise pas la vie, hein. Calvi, c'est une cité qui est relativement morte, hein. C'est presque un désert. On pourrait s'en amuser d'ailleurs pendant la période de confinement, en se disant que finalement les photos de Calvi en période de confinement ressemblent beaucoup aux photos de Calvi en dehors du confinement, mais pendant l'hiver, voilà. Oui. Donc Città della Dava, sans prétention, je dirais, mais avait pour objectif d'essayer de répondre en partie, en tout cas, à la problématique du manque de lien social, du manque de récréativité, de rapport à la culture dans la grande diversité qu'elle peut offrir. Et donc, quand j'ai créé cet établissement, le pari, qui est un pari difficile à tenir, hein, je le cache pas, c'était de n'ouvrir que l'hiver, justement. Donc, de n'être présent que pendant la période où justement, il ne se passe rien, et ne s'adresser qu'aux clientèles, je dirais, locales. Et donc, forcément, c'est un pari financier audacieux, et qui a été compensé pendant ces sept saisons précédentes par justement ce que je pouvais tirer en bénéfice de la saison estivale sur mon autre activité, qui venait compenser parfois le déficit, je dirais, de la première. Mais en tout cas, on a eu la chance sur Città della Dava de fermer 15 jours à peu près, même pas une semaine en gros, hein, avant la fermeture des établissements, cafés, d'accord, et restaurants. Donc on n'a pas été impacté, c'est une chance.
Alors maintenant, on va parler de Bianconi Scuberta, évidemment. Là, c'est un peu plus compliqué parce que normalement, ça commence beaucoup plus tôt au niveau des excursions. Hein.
Oui, on est là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'en effet, on a une saison en principe qui démarre à la fin du mois de mars, vraiment tout début d'avril. Et qui est effective, c'est-à-dire sur le mois d'avril, nous on travaille avec un tourisme culturel, un tourisme de découverte. On n'a pas la problématique des plages, de la température de l'eau, hein, ou de l'accessibilité des sommets. Donc on est sur le terrain quotidiennement sur le mois d'avril, sur le mois de mai, sur le mois de juin, septembre et octobre, pour ne parler que de l'avant et de l'arrière saison. Évidemment, là, sur notre activité, ben, elle est au point mort. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas à moins 50%, moins 70%, mais à moins 100%. Donc, forcément, c'est dommageable. C'est dommageable parce que dans mon entreprise travaillent des guides conférenciers diplômés d'État qui travaillent sur une saison assez longue, puisqu'on a des contrats de 7 à 8 mois. On a aussi des commerciaux, des chauffeurs, des guides de Fédération française de 4x4 diplômés. Donc tout ce monde-là, je dirais, compte évidemment sur la saison. Alors, j'espère, parce que pour l'instant on n'en a pas trop entendu parler, mis à part, je dirais, l'allongement de la couverture ASEDIC par rapport à cette durée de confinement. Mais après, que se passe-t-il, sachant que la majorité des entreprises de Corse qui vivent de près ou de loin du tourisme ne sont pas en capacité, évidemment, d'embaucher le personnel qu'elles avaient embauché l'année précédente et qui pourtant comptaient évidemment sur cette saison puisqu'elles travaillent ainsi. Et donc moi, les guides justement avec lesquels je travaille, on a trouvé des systèmes, on va essayer de conserver l'essentiel, donc tous ceux qui sont diplômés notamment, tout ça, qui sont absolument indispensables, je dirais, à notre activité, vont rester avec nous sur la saison, en espérant qu'elle soit le plus longue possible, on verra. Quant aux extras, à ceux qui arrivent pour des périodes plus courtes, les chauffeurs ou des choses comme ça, ben, cette année, certainement qu'on va devoir faire sans. Donc on est dans l'attente maintenant, comme beaucoup, de la reprise des transports, avec évidemment une inquiétude que l'on entend, hein, celle d'une bonne partie de la population qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va réussir à concilier à la fois une reprise de l'activité économique de la Corse autour du tourisme et en même temps mettre en place des conditions sanitaires qui soient convenables, pas dire optimum, parce que ça me semble hypothétique, hein. Donc on va être objectif, hein, à un moment donné. Il va falloir ménager la chèvre le chou, apparemment, dans cette opération. Et donc la question va se poser. Donc la reprise des transports s'annonce désormais. On annonce aussi la reprise, la réouverture des restaurants, des établissements comme les bars aussi. Donc au début du mois de juin. Donc voilà, pour l'instant, on observe et on commence à être malgré tout un peu soulagé de l'existence possible d'une saison. Oui, voilà. Oui. Après, ce dont elle sera faite, l'avenir nous le dira.
Alors, tu publies pas mal, hein, de posts sur Facebook avec des analyses toujours pertinentes. J'aimerais avoir ici à la radio ton point de vue sur le tourisme, l'évolution du tourisme, et puis aussi peut-être une analyse plus générale de cette situation en Corse, mais pas que, hein, au niveau national et dans le monde. Comment va-t-on s'en sortir et d'après toi, est-ce que le monde va changer ?
Alors oui, je publie d'autant plus que j'ai le temps de le faire en ce moment. Donc, je publie de temps en temps sur Facebook des billets d'humeur comme ça et qui font réponse un petit peu à ce qui circule aussi au sujet du tourisme. Alors je comprends, hein, dans une certaine mesure aussi l'agacement de certains, voire de beaucoup, par rapport à cette question du tourisme. Est-ce qu'en effet l'économie doit prévaloir sur la santé? Évidemment que non. Maintenant, si en effet on ne se préoccupe pas justement de ces 30% de l'économie de la Corse qui est en relation avec le tourisme direct et probablement donc du coup bien au-delà, parce que quand on parle de l'impact du tourisme en Corse, il n'est pas que le fait des hôtels, des restaurants, des prestataires de services comme moi, je dirais des locations en tout genre. C'est aussi, à côté de cela, bien sûr, le berger qui vend son fromage et sa viande, c'est l'apiculteur qui vend son miel, c'est évidemment les viticulteurs qui écoulent un nombre conséquent, je dirais, de vin pendant la période estivale, etc., etc. Donc ça fait vivre des artisans d'art, ça a permis aussi la renaissance de certains métiers, je dirais, qui profitent aussi, bien sûr, de cette activité, de cette manne touristique. À côté de cela, bien sûr, on s'inquiète donc des questions sanitaires qui pourraient, qui doivent garantir aussi évidemment la protection des populations pendant cette période de reprise. Bon, le tourisme en Corse, au-delà de la la seule problématique de savoir si la saison sera bonne, pas bonne, savoir si en effet on va pouvoir exercer dans des conditions sanitaires acceptables ou pas, il est remis en cause en ce moment, particulièrement, je dirais, dans Lille, parce que Lille, ben, par définition, c'est un territoire qui est isolé. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que, à contrario de ce qu'on nous a annoncé au départ avec les clusters Ajaccio, etc., que la situation finalement sanitaire de la Corse est plutôt bonne. On a réussi à traverser cette période difficile en limitant la casse. Et à l'issue, donc, on n'a pas envie de retomber, évidemment, dans une situation complexe, voire beaucoup plus complexe que celle qui était initiale. Bien. Mais au-delà de cette question-là, on pose la question du tourisme. On remet en question aujourd'hui cela en parlant de tourisme de masse pour la Corse. Donc je me suis exprimé en effet dernièrement sur les réseaux sociaux en ce sens, qu'il me semblait que le tourisme de masse en Corse n'était pas un état de fait dans la mesure où il est conditionné dans l'espace et dans le temps. Je m'explique, on a une hyper-saisonnalité qui fait que sur juillet et août, on a une concentration, donc en effet, de personnes en des lieux très précis. Donc, on a beaucoup parlé de la réserve de Scandola, notamment au travers du fait qu'elle a perdu son diplôme européen. Bon. Mais il y a d'autres sites qui sont concernés, bien sûr. On pourrait parler de la Griatte, on pourrait parler des Calanques de Piana. On pourrait parler même du Gervin, pourquoi pas, hein. Le Gervin aussi, c'est un site finalement de tourisme de masse dans une certaine mesure. Les aiguilles de Bavay, là, et j'en passe. Bon, il y a beaucoup de sites donc qui sont concernés par cela. Donc on s'en rend compte de quoi ? On se rend compte que finalement cette population touristique, elle se concentre en effet massivement, mais sur des périodes très courtes et sur des lieux très précis. Et en dehors de ça, on ne peut pas parler de tourisme de masse pour la Corse, parce qu'en effet, il y a plein de régions pendant la période estivale qui ne sont pas touchées par cela, ou alors d'une vraiment moindre mesure. Donc finalement, la question que je posais, c'est de savoir si, en amont, avant de parler de toute réglementation, toute limitation, tout quota, toute protection, etc., etc., est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, alors dans une concertation sur le moyen long terme, hein. On n'est pas sur évidemment une réponse amenée demain avec un changement radical de société. Ça, je n'y crois pas du tout. On a entendu des vœux comme si on était à Saint-Sylvestre pour savoir ce qui se passerait après le confinement, comme si le monde d'un coup de baguette magique allait se changer. Moi, je pense qu'au contraire, il va falloir 20 ans, 30 ans pour changer l'économie, notamment autour du seul domaine touristique, par exemple, hein, changer la manière de travailler. Et en amont, je pose la question de savoir si la problématique déjà de l'hyperconcentration ne pouvait pas être réglée par le simple fait que les vacances d'été se pratiquent en France depuis 70 ans sur les mois de juillet et d'août. Et en 70 ans, on a même reconcentré ces vacances sur juillet et août. Au départ, c'était un petit peu juin, un petit peu septembre. Maintenant, c'est encore plus concentré. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de le faire comme pour les vacances de Pâques, à savoir de créer des zones en France, tout simplement, et d'imposer donc des congés qui pourraient durer 2 mois, mais sur une période qui va de début juin à fin septembre. Alors évidemment, ça demande une réforme et une réorganisation du calendrier scolaire, des examens, etc. Les entreprises qui toutes prenaient leurs vacances au mois d'août, eh bien, il faudra échelonner aussi. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Et ça, c'est un moyen qui me semble assez pragmatique, assez simple à mettre en œuvre en définitive. C'est plus de la logistique aujourd'hui qu'autre chose. Et surtout, ça amène une réponse à la fréquentation massive sur certains sites et également donc à la problématique environnementale ou à la cherté même des prix. Hein, ce qui fait aussi, à un moment donné que la Corse coûte cher à telle ou telle période, que ce soit du billet d'avion jusqu'au Coca-Cola qu'on va prendre sur une terrasse, c'est peut-être cette hyper-concentration, justement, la loi de l'offre et de la demande. Si on diminue la pression, on diminue la pression sur tout, y compris en effet sur la cherté des prix. Donc ça pourrait être, d'après moi, une piste qu'il faudrait envisager en amont, puisque la Corse n'a pas les compétences évidemment pour cela, mais peut-être qu'en effet on peut rêver, hein. Ça c'est encore autorisé, ça coûte rien. On peut imaginer en effet que ça pourrait être une réponse qui serait amenée par l'État et peut-être une harmonisation se faire autour de cela sur 20 ans, sur 30 ans au niveau européen. Bref, on a le droit de rêver, mais pourquoi pas? Il y a beaucoup de d'autres choses, évidemment. Aujourd'hui, on parle de tourisme en Corse autour de la nécessité de développer le tourisme culturel, le tourisme nature, probablement aussi le tourisme de bien-être. Enfin bref, amener une alternative en effet au tourisme de masse, massif, comme on le connaît sur les plages, comme on le connaît sur certaines zones particulièrement fréquentées. J'ai créé mon entreprise il y a 15 ans en ce sens. C'était la première compagnie de guide privé de Corse, la première compagnie d'excursion à proposer ce type de sortie, je dirais essentiellement axée autour de l'histoire de notre île. Ça fonctionne à mon échelle. Pour autant, on peut pas dire que, je dirais, on soit aidé à quelque niveau que ce soit. Tous les locaux qui sur les réseaux sociaux appellent justement au développement de ce type de tourisme-là, à la nécessité même que les locaux investissent, par exemple, aujourd'hui l'île et ne partent pas cet été en vacances ailleurs que sur leur île pour découvrir celle qu'ils connaissent finalement assez mal. Alors très bien si demain en effet il y a une prise de conscience et que les mœurs changent, mais jusqu'à présent, le tourisme local de découverte sur mes activités, il est très marginal. Il faut pas se leurrer. La majorité des gens qu'on a, ce sont des vacanciers, hein, des gens qui viennent de l'extérieur et qui veulent découvrir. Donc à un moment donné, c'est bien quand on entend des intellectuels ou autres nous donner la leçon en disant voilà, il faut faire ci. En attendant, pendant 15 ans, je les ai jamais vus. Voilà, donc il faut remettre aussi les choses au clair. Et alors peut-être que ça va changer, tant mieux. Au contraire, moi je suis pas du tout quelqu'un qui cherche à prendre quelque revanche que ce soit ou qui va nourrir, je dirais, un ressentiment. Bon, pas du tout. Au contraire, si la société corse a envie d'évoluer, de marcher sur ce chemin-là, celui justement d'un tourisme nouveau, regroupons-nous à l'issue de cette saison qui s'annonce évidemment très très compliquée, et on peut en parler, bien sûr. On va essayer de le faire avec la CTC, avec l'ATC, avec donc les responsables politiques, bien sûr, mais pas que, avec les corporations de métiers et bien au-delà en effet du décès professionnel du tourisme. Ça pourrait être en effet quelque chose qui pourrait se penser de façon beaucoup plus collective. Encore faut-il s'inscrire, je dirais, dans le concret, parce que nous, des réunions sur l'allongement de la saison, la nécessité, en effet, de s'orienter vers un tourisme culturel, ça fait 15 ans que j'en fais des réunions, et mes collègues en font aussi, et malheureusement, aujourd'hui, la résultante, elle est nulle.
Ouais. C'est vrai, à chaque fois, il y a une espèce de dynamique qui se met en place, tu dis, ça y est, enfin, il va y avoir un petit truc qui va changer, puis finalement on retombe très rapidement dans nos travers, dans cette espèce de pas le lâchagore, mais ce côté un peu bon, ça y est, écoute, c'est reparti, allez, maintenant on est au boulot et puis on verra.
C'est ça. Alors moi je crains en effet, comme tu dis, en toc, à l'issue justement de cette épreuve qui est d'abord en effet sanitaire, puis ensuite sera économique. Et encore, quand on parle de la mauvaise saison, c'est une chose, mais l'après-mauvaise saison sera bien pire.
C'est ça. Hein,
il faut l'anticiper. Moi, dernièrement, j'ai contacté justement la Croix-Rouge un peu pour en parler, parce que derrière cette saison, il faut s'attendre en effet à des situations extrêmement difficiles, hein, des difficultés sociales majeures en Corse. Déjà qu'on vit dans une île qui est une des régions les plus pauvres de France, on va se retrouver avec une situation sociale qui sera vraiment plus que préoccupante. Moi, ce que je crains, au-delà, je dirais, des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, et fatalement, il y en aura malheureusement beaucoup. Ce que je crains, c'est une sorte d'exode, un peu comme on en a connu en Corse après la Première Guerre mondiale. Alors peut-être, évidemment, moins puissante. À la suite de la Première Guerre mondiale, il y avait non seulement eu... En effet, avec le phylloxéra, je dirais, les progrès dans les transports, la concurrence méditerranéenne, voire internationale, un effondrement un petit peu de notre système économique agricole. Il y a eu les ravages de la Première Guerre mondiale dans les tranchées. Et puis, il y a eu, en 1918, la grippe espagnole, hein, qui a eu 6000 morts en Corse. C'est colossal. Donc, la situation n'est pas la même. Hein, il faut là aussi raison garder, il faut être raisonnable, hein, on ne peut pas faire de comparaisons qui soient invraisemblables. Pour autant, au vu de la situation économique de notre île, je crains quand même beaucoup de départs l'hiver prochain. D'abord de façon très pragmatique parce que nous avons beaucoup de saisonniers et que sauf si l'État décide en effet de prolonger leur couverture jusqu'au printemps 2021, ces saisonniers n'auront pas d'autre choix, à défaut de travailler encore, si on sait que l'hiver il n'y en a pas, que de partir chercher fortune ailleurs. Et s'ils reviennent, c'est une bonne chose. S'ils ne reviennent pas, ça va être dommageable. Donc voilà, je crains qu'au-delà même des saisonniers, d'ailleurs les entrepreneurs, etc., un risque de partir nombreux. Moi, j'ai l'avantage, tout à l'heure tu le disais, d'avoir un café que je pourrais ouvrir en novembre. Et tant bien que mal, je dirais, on arrivera à passer l'hiver, je l'espère. Mais à défaut d'avoir cette structure, je serai contraint, assurément, je dirais, hein, sauf si on a une surprise extraordinaire, mais je crois plus trop au Père Noël, de partir, en effet, de partir pour faire une saison ailleurs, ce qui serait pas une catastrophe en soi, mais très significatif, je dirais, de la situation dans laquelle on est. Donc voilà, je pense qu'il va falloir être très solidaires les uns vers les autres. Je pense que les polémiques, si tu veux, actuelles autour du tourisme, de savoir quel tourisme choisir entre le tourisme culturel, le guide de rando en montagne ou l'autocariste, je pense que ce sont des polémiques qui n'ont pas lieu d'être en ce moment. Je pense qu'en ce moment, il faut que les gens soient solidaires. On va se rendre compte que le tourisme impacte notre société, notre économie bien au-delà, en effet, des seuls acteurs du tourisme. On va le voir partout, je pense même dans les milieux administratifs. Et il va falloir être solidaires les uns envers les autres, essayer de mettre de côté justement
nos égos
numéro un.
Nos égos et la jalousie aussi, parfois.
Et puis voilà, c'est ce que j'allais te dire, notre défaut numéro un en Corse depuis des siècles, la jalousie, qui fait que sans la jalousie, notre société serait certainement beaucoup plus en progrès depuis très longtemps qu'elle ne l'est. Donc peut-être que ce que l'on peut espérer, si on en est en effet à faire des vœux, c'est d'un peu plus de solidarité et surtout voilà, de mettre cette jalousie et le reste de côté, les polémiques pour un instant de côté. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on ne se mettra pas autour de la table avec qui le voudra pour parler de ce tourisme, pour inventer un tourisme de demain, puisque le tourisme, c'est l'enfant du capitalisme, c'est l'enfant aussi de la mondialisation, mais comme tout ce qui nous entoure. Si la Corse était faite d'industrie, si nous ne vivions que d'industrie, je suis sûr que ceux qui critiquent le tourisme critiqueraient aussi violemment l'industrie, sous prétexte qu'elle polluerait, qu'elle créerait des disparités entre les ouvriers et les cadres, etc., etc. Donc on en aurait aussi. Donc il n'y a pas de système, malheureusement, dans ce monde capitaliste, ultra-libéral, qui soit parfaitement vertueux, loin de là. Donc le tourisme est à réformer, mais en vérité, on s'en rend compte, quand on gratte un peu, c'est la société entière qui est à réformer.
C'est clair.
Donc en commençant par la finance internationale, en premier lieu, moi quand je tape sur le tourisme, j'ai envie de dire, et les banques alors, hein, qu'est-ce qu'on en fait? Comment se fait-il, là, par exemple, dans un contexte comme celui que nous traversons, que les États n'imposent pas justement aux banques, dans les secteurs en tout cas qui sont les plus exposés hein, à ces difficultés financières, le gel purement et simplement de tous les crédits, et ce jusqu'à la saison prochaine, par exemple, hein, si on parle par exemple des acteurs du tourisme. Voilà comment ça se fait. Donc on nous propose aujourd'hui en matière d'aide des crédits, Anto. Des crédits,
attends, qu'on t'accorde pas forcément. Attends, oui, et puis il y a des crédits qu'on t'accorde pas forcément en plus.
Ah ben bien sûr, voilà, c'est pas automatique de toute manière. Hein. Donc ça veut dire que celui qui est le plus en difficulté, de toute manière, il ne pourra pas l'obtenir au final. Donc ça veut dire que ceux que l'on va sauver en priorité avec ce système-là, ce sont des gros. Et par-dessus le marché, du point de vue moral, c'est scandaleux quand même de se dire que personne n'est responsable de ce qu'on est en train de traverser. Donc, pour autant, tous ceux qui en sont victimes économiquement vont devoir y faire face avec des aides qui semblent pour l'instant minimum. Alors, on nous parle de milliards, on verra de quoi sera fait l'avenir. Hein. Peut-être qu'on aura d'heureuses surprises. Mais pour l'instant, ce sont vraiment des aides, je dirais, c'est du saupoudrage. Et ce qu'on nous propose comme aide phare, et moi ça m'a choqué, hein, moralement, c'est en effet un nouveau crédit. C'est-à-dire qu'en gros, les entrepreneurs sur lesquels on tape, les PME notamment, depuis des années et des années, ils vont, pour pouvoir passer le cap, pour pouvoir payer leurs échéances en cours, contracter un nouveau prix, un nouveau crédit, ce qui fait que si ça va leur permettre de sortir la tête de l'eau pendant un an, dans un an, il va falloir le rembourser, ce crédit. Et s'ils arrivent à le rembourser, évidemment, ce sera au détriment de leur pouvoir d'innovation. Donc ce sont des entreprises qui ne seront plus en capacité d'investir justement pour l'avenir, pour renouveler des matériels, pour innover, etc., pour se lancer sur de nouveaux marchés. Donc là-dessus, en effet, on recule. Donc c'est pour l'instant, ce que nous démontre en tout cas cette crise, c'est que en effet, ce qui tient fondamentalement notre société, on le sait bien sûr, hein, c'est l'économie, mais l'économie capitaliste et notamment la finance internationale, c'est les banques qu'on va chercher à servir, j'ai l'impression parfois dans cette crise. Et ça c'est quelque chose qui est assez bon, évidemment, on va pas être naïf, hein, on le savait, c'était attendu, mais ça reste décevant. Voilà, ça reste décevant, donc il faut que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut que les corps se serrent les coudes dans cette affaire-là. On aura l'occasion de parler du tourisme, de son avenir, avec évidemment un peu plus de tranquillité dans les mois, dans les années qui viennent. De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est un travail de longue haleine.
Merci, voilà. Olivier.
Réformer le tourisme et la société corse et son économie, puisque nos politiques, jusqu'à présent, qu'ils soient nationaux ou locaux, et ce pendant des décennies, ne se sont pas préoccupés de la diversification de l'économie de notre île, misant tout sur le tourisme. Donc, on ne va pas taper maintenant sur les professionnels du tourisme qui ne sont pas responsables, finalement, des grandes orientations qui ont été prises, puisqu'ils n'étaient pas, en plus, souvent aux commandes. Donc, il faut assurément... je dirais revoir la copie, mais ça va nous prendre 20 ans, ça va nous prendre 30 ans. En aucun cas, après cette année difficile, on va voir des opérateurs du tourisme en Corse s'improviser apiculteurs, s'improviser professeurs de philosophie, ou s'improviser, par exemple, ingénieurs dans les énergies renouvelables. Il faut être sérieux. Donc voilà, essayons de donner les moyens aux gens qui sont en place de rester vivre dans leur pays, et d'inventer avec les autres Corses les conditions du vivre mieux demain.
Merci Olivier pour ton témoignage. Je pense qu'on se retrouvera prochainement, d'ici quelques mois, pour faire un nouveau point, car je pense que septembre-octobre seront des moments très importants pour la suite. Rapidement, si les gens veulent bien découvrir tes excursions, il y a un site internet, il y a une page Facebook, comment ça se passe ?
Alors pour nous joindre, il y a en effet, alors on a surtout une page parce qu'elle est assez interactive, donc du coup sur Facebook, Bianconi Scouperta, hein, tout simplement. Ou alors, en me téléphonant, on peut donner le numéro de
bien
téléphone tantôt,
hein, je pense. Ouais.
Au 06 32 90 87 29, 06 32 90 87 29. Et on a mis en place justement un programme d'excursion destiné aux locaux avec des prix qui sont à ras du plancher. Hein. L'idée là, c'est même pas de se faire de l'argent, c'est d'abord pour moi de sortir justement de ce confinement et de retrouver le chemin du patrimoine, de prendre l'air, de retisser des liens sociaux, on en avait bien besoin. Et du coup, donc c'est abordable, ce sont des sorties à la journée qui représentent 10 à 20 euros par personne, donc tu vois, on est vraiment, c'est presque symbolique. Mmh. Et ces sorties-là sont réalisées les week-ends, donc jusqu'à la mi-juin, et selon l'état des transports, hein, on prolongera ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est une offre particulière, voilà, qui est proposée donc pendant cette période, vraiment pour nos locaux, avec cette ambition, voilà, c'est de redécouvrir justement son île et de se rendre le goût des chemins du patrimoine, voilà, et ça fait du bien.
Merci Olivier, à très bientôt sur RCC.
Merci Anto, merci à toi, à très vite.